Bonjour. Donc, tout le monde m'entend bien, ça va? Alors, je parle en français, je suis désolée, mon espagnol et mon anglais ne sont pas assez bons pour l'exprimer dans cette langue-là. La santé des musiciens va dépendre énormément d'une concertation entre tous les acteurs. Vous êtes concerné, responsable d'orchestre, parce que la santé va se décliner sur trois plans. Vous allez décliner la santé sur le plan économique, parce que les problèmes de santé des musiciens ont un coût immédiat, avec des arrêts de travail, donc un coût économique immédiat. Vous avez un rôle aussi sur un système qui est sociétal, social, on en a parlé tout à l'heure et quelqu'un nous a fait une brillante démonstration là-dessus. Donc la personne doit être respectée dans ses conditions de travail. Et puis, il y a aussi une action importante, c'est sur la qualité musicale et finalement le côté artistique qui va être important. Donc s'occuper de la santé des musiciens, c'est juste quelque chose qui doit être une multitude d'acteurs. Et c'est pour ça que je remercie beaucoup ces journées où vous êtes tous là et où nous pouvons nous parler de toutes ces choses qui nous concernent tous. Alors moi, je suis kinésithérapeute et je travaille depuis 16 ans, quasiment exclusivement avec les musiciens. J'ai commencé à les soigner dans mon cabinet et puis très vite, je me suis aperçue qu'il fallait absolument aller sur le terrain. Sur le terrain de quoi? Sur le terrain de la formation, sur le terrain de la prévention. Alors j'ai maintenant une expérience je suis venue ici parce que j'ai une expérience dans des orchestres dont je vais vous parler. Et donc notamment, ça fait maintenant quelques années que je travaille au sein d'orchestres. Je travaille de façon différente suivant ce qu'on me demande. Donc soit je travaille notamment en association avec l'Association française des orchestres, Philippe Fanjas, qui n'a pas pu venir aujourd'hui et qui le regrette. Donc on travaille en collaboration et je le représente quelque part. Donc lui propose des journées pour les orchestres, une journée de formation, d'information. Donc, je suis intervenue sur ces orchestres, sur une journée, sur quelques-uns, où en fait l'idée c'est que les musiciens se prennent en charge. C'est qu'ils arrivent à comprendre l'enjeu qui se passe au niveau de leurs problèmes corporels. Parce qu'au niveau de la musique, il y a eu quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est que le corps du musicien, c'est bizarrement l'instrument du musicien le plus mal connu. Et du coup, il y a tout un enjeu pour informer aussi les musiciens, parce que les musiciens sont acteurs aussi de leur santé, mais ils ont du mal à en avoir conscience. Alors ces formations d'une journée leur permet de pouvoir être orientés vers les bons acteurs pour les aider. Et le problème qu'on rencontre par contre, c'est que on leur demande de se responsabiliser, mais il y a un réel problème sur le terrain, c'est-à-dire que les gens formés pour les aider sont très peu nombreux. Alors moi j'ai la chance aussi de travailler depuis 6 ans maintenant avec l'Orchestre National de Lyon et l'Orchestre de l'Opéra de Lyon. Donc je travaille avec ces orchestres au niveau de 20 jours par an avec l'Orchestre National de Lyon et 15 jours par an avec l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, donc depuis à peu près 6 ans pour l'ensemble des orchestres. Et au sein de ces orchestres, cette expérience a été, je trouve, merveilleuse pour moi, parce que moi je peux en témoigner, mais de ce que je reçois aussi des musiciens. Alors, au départ on était parti sur un an, et si ça fait 6 ans que j'interviens, je ne me leurre pas, c'est parce que déjà, il y a eu une diminution assez importante des arrêts de travail. Donc, le coût économique est largement, je vais dire, de ce que je coûte à aller dans ces orchestres, est très largement compensé, très largement par les arrêts de travail. Et puis, il y a autre chose dont on ne pense pas, à laquelle on ne pense pas, pardon, quelque chose qui est que le travail sur le corps, ça fait tout à la fois. Éventuellement, s'il y a un problème, on peut le résoudre. Plus on attend pour résoudre un problème, plus il va durer longtemps, plus il risque même d'être pérenne. Je pense notamment à tous les problèmes de tendinite qui font tellement peur aux musiciens, alors que si elles sont prises tôt, ce n'est pas plus qu'une grippe ou un rhume. Je pense aux problèmes de dystonie de fonction qui sont souvent catastrophiques pour une carrière et que donc si elles sont prises suffisamment tôt et même en amont, en prévention, ça fait quand même peur de voir à quel point il y a une augmentation de ces pathologies, mais qui sont aussi liées, et certains des intervenants en ont parlé, au manque de formation, au manque de respect au niveau social, à la peur, comme on vient de l'entendre. Et donc, ce qui est important, ça va être de former ces musiciens. Et ce qui est génial, c'est que quand on les fait travailler sur le corps, il y a une dimension que moi j'ai découverte depuis 15 ans et que je développe tout le temps, c'est l'amélioration immédiate du son. C'est-à-dire que quand on améliore, on parle beaucoup de posture, moi je parle plus de gestes, mon livre s'appelle « Gestes et postures du musicien », j'insiste sur le fait que c'est le geste qui est important et que la posture est un moyen d'arriver à un geste meilleur. Mais cette amélioration du geste musical, il a une influence sur le son absolument immédiate. Quand j'entends un instrumentiste de l'Orchestre National de Lyon qui est au très haut niveau et qui en 20-30 secondes change son son et quasiment regarde son instrument en disant « mais mon instrument est capable de faire ça », quand on est à ce niveau-là, c'est juste un moteur tellement puissant de leur intérêt à s'occuper de leur corps. Et c'est ce levier-là que j'essaie d'utiliser. Alors j'ai un partenariat depuis 6 ans avec eux. Au début, j'ai commencé, on a fait une conférence d'information. C'était assez difficile, ils avaient du mal à écouter, la conférence était obligatoire. Il y en avait qui n'avaient pas envie d'être là, ils ne comprenaient pas ce qu'ils y faisaient. Et puis petit à petit, donc après, c'était organisé pour qu'on fasse des ateliers. Donc il y avait des ateliers d'une dizaine de personnes pendant 3 heures. Et puis je me suis heurtée à des problèmes, c'était que, entre eux, ils n'avaient pas envie de parler de leurs problèmes. Et j'ai eu beaucoup de mal à convaincre la direction que si je voulais vraiment obtenir quelque chose avec eux, il fallait que je les voie en individuel. Pas que je les voie en individuel en tant que kinésithérapeute. Oui, on peut soigner quelque chose rapidement, oui, mais c'est pas le but. C'est en tant qu'individuel pour qu'ils puissent oser m'exprimer leurs problèmes et mental et de stress. J'ai quand même mis 4 ans, avant qu'un musicien que je vois en individuel accepte de venir me voir pour me parler de son trac. Ça donne toute une dimension à la notion intérieure, comment ressent le musicien. Le trac, pour lui, c'est une plaie, c'est quelque chose. S'il a du le trac, c'est qu'il n'est pas bon, c'est qu'il est médiocre, comme disait tout à l'heure quelqu'un. Ben non, il faut lui apprendre que le trac, il est juste inhérent et il fait partie des choses. Et ce témoignage de ces musiciens avec qui je travaille, moi, c'est vraiment une passion pour ça, parce que on se rend compte que quand on travaille avec eux, ils améliorent leur son, ils améliorent leur plaisir, le plaisir musical. Travailler sur le corps, c'est améliorer le plaisir. C'est améliorer le plaisir de la vibration. Je reverrai toujours ce violoncelliste à qui j'ai parlé de comment se diffusait la vibration dans son corps pendant qu'il jouait. Un monsieur d'une 40aine d'années, à un niveau extraordinaire, qui me dit « on ne m'a jamais parlé de ça ». Je lui explique que quand il avait un blocage musculaire, par exemple, au niveau de l'épaule, la transmission de la vibration qui passe par les os, juste là, elle s'arrêtait, donc il n'avait pas cette vibration qui se continuait. Et son plaisir musical, il ne pouvait pas passer puisqu'il n'y avait pas de vibration. Et il me dit, mais juste personne ne m'a parlé de ça. Et comme il enseigne dans une des plus grandes écoles de France, puisqu'il enseigne au Conservatoire supérieur de Lyon, il me dit, j'avais un élève avec qui j'ai eu un problème, j'arrivais plus, il n'arrivait plus à avancer. Et finalement, je lui ai fait utiliser ce que tu m'as fait faire. Et à partir du moment où je lui ai parlé de vibration, bah, techniquement, il a recommencé à repartir, à prendre plaisir. Et ce plaisir, ça améliore la qualité de l'orchestre, ça améliore la volonté du musicien, ses capacités même à faire des efforts quand on lui en demande. Donc ça, c'est vraiment un travail que je trouve vraiment intéressant. Et souvent, beaucoup de gens me disent, mais depuis 6 ans, finalement, parce que donc après, une fois qu'on a fait ces ateliers, dès la fin de la première année, je les vois maintenant tous en individuel. Donc j'y vais par exemple sur une journée de 6 heures, j'en vois 6, un par heure. Et souvent je vois les mêmes, c'est-à-dire sur 110 musiciens de l'Orchestre National de Lyon, il y en a à peu près 30 à 40 qui consultent. Mais finalement, ils viennent régulièrement depuis 6 ans. Et beaucoup de gens, y compris dans mon entourage, me disent « mais qu'est-ce que tu fais avec eux ?» Une fois que tu leur as expliqué une fois, deux fois, trois fois comment il fallait avoir un bon geste, une bonne posture. Mais en fait, c'est, comme je leur dis, ce sont des chevaux de course. C'est des réglages qui sont permanents. On travaille sur du répertoire, sur telle œuvre, ils avaient un problème dans tel passage. Ben, j'ai la capacité de leur expliquer comment faire tel passage pour qu'ils passent mieux, avec plus de plaisir, plus de facilité et plus de musicalité. Et un meilleur son. Donc tous les acteurs sont ravis de ce système et je trouve juste dommage que ça soit pas plus développé. Alors bien sûr, c'en est assez balbutiement. Bien sûr, ça fait 15-16 ans que j'ai commencé ça. Ça fait à peu près depuis ce temps-là que ça existe un petit peu. La personne d'avant le disait, tout le disait. Mais donc il faut qu'on accélère parce que il y a tellement d'augmentation des du nombre d'œuvres qu'on leur demande. À l'Orchestre National de Lyon, là, je les ai vus lundi, je les revois demain. J'ai demandé à des musiciens, je leur ai dit, voilà, je vais à des journées pour la santé des musiciens. Quel message vous aimeriez que je passe? J'en ai demandé aux 6 musiciens que j'ai vus lundi. Et tous, ils m'ont dit qu'on fasse attention quand même quand on crée des répertoires, quand on fait des programmes, qu'on multiplie pas les difficultés tout le temps, ce qu'ils sont en train de faire. On leur fait de plus en plus. Alors, ils font des ciné-concerts, ce qui leur demande beaucoup d'adaptation. On en parlait. Et puis après, ils vont faire quelque chose de symphonique, de quelque chose de très brillant, où ils vont pas arrêter de jouer pendant plusieurs heures sans discontinuer. Et ça, ça leur demande énormément, énormément d'énergie. Et après, moi, il faut d'ailleurs, d'après, que je diminue les tensions et que je les aide à faire, à supporter ça. Alors qu'en fait, il faut absolument, à mon avis, qu'il n'ait pas à supporter, que ça soit une relation entre tout le monde. Et ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer. Après, donc, il s'est passé une chose l'année dernière dans cet orchestre. Ils sont partis 15 jours en tournée en Chine. Ils partent régulièrement. Ils sont partis au Japon après cet été. Et quand ils sont partis en Chine, il y en a plusieurs qui m'ont, on en a parlé, qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien que je les suive pendant leur tournée. Et c'est amusant parce que plusieurs ont demandé à la direction. J'ai envie de dire, comme ça s'est jamais fait, ça se fait pas. Mais comme ça se fait pas, ça se fait pas. Mais pourtant, c'est juste logique. Est-ce que vous imaginez une équipe de sport qui partirait sans son kiné, sans son coach? On n'imagine pas, mais on n'imagine pas une équipe de musiciens qui partent avec un référent, qui partent avec quelqu'un qui soit capable de les écouter, de leur dire, voilà, là, il y a tel problème, ben, on le résout comme ça. T'as mal au bras aujourd'hui, et ben voilà, on va faire ça, et puis demain, tu vas faire le même concert et t'auras pas mal au bras parce que moi, je suis là pour t'aider. Et quand je vois justement ce musicien qui est arrivé, ce violoniste, un jour, qui me dit, mais moi, ça fait 15 jours, j'ose pas venir vous voir parce que j'ai mal au bras. Et j'ai peur que ce soit une tendinite, comme si on lui disait qu'il avait un cancer et que c'était fini. Et donc, il faut absolument informer tous les acteurs sur ce travail avec les gestes et postures. Alors après, il faut travailler aussi à former différentes personnes. C'est-à-dire que moi, ça fait aussi 15 ans que je travaille sur le terrain et que je travaille notamment dans... Il y a eu des questions tout à l'heure hein, de votre part. Je travaille dans les conservatoires, dans les écoles de musique, et que je forme les professeurs de musique. C'est-à-dire que plus les enfants, jeunes musiciens, vont apprendre à bien se servir de son corps pendant qu'ils apprennent la musique, plus il va y avoir quelque chose qui va se passer sans avoir à réparer derrière. Il faut qu'on fasse de la prévention, mais la prévention, ça commence dans les premiers temps de l'apprentissage de la musique. On parlait tout à l'heure des chaises. Si on leur donne maintenant des chaises adaptées, ce qui malheureusement n'est pas encore fait et ce qui est très difficile. Mais si on leur donne des chaises adaptées, imaginez le cas d'un jeune enfant qui a appris sur une chaise non adaptée, notamment sur une chaise trop grande. Ça lui a donné des habitudes de compensation gestuelle et posturale qu'il a intégrées à l'intérieur de son cerveau. Donc il sait jouer par exemple du violon. S'il est assis sur une chaise qui est trop grande pour lui, il va avoir quelque chose qui va faire que son bassin va partir et qu'il va avoir un dos qui va se creuser. Et donc, il va apprendre à jouer du violon avec un dos creux, qui va lui donner des tensions musculaires, qui va lui donner des compressions sur ses vertèbres, qui va lui donner des tensions dans la main pour pas tomber. Seulement, à 30 ou 40 ans, ben, il aura l'habitude de jouer avec le dos en extension. Et quand on va lui donner une chaise adaptée, celles-là ne le sont pas. Quand on va lui donner une chaise adaptée, il ne va pas savoir s'en servir parce qu'il va rester dans cette extension du dos. Donc c'est très très important de comprendre qu'il faut commencer dans les conservatoires, dans les écoles de musique. Comment expliquez-vous que les professeurs d'éducation physique ont autant de cours d'anatomie et de physiologie que nous, kinésithérapeutes? Et que les professeurs de musique ont dans leur cursus au départ pas une seule heure sur l'apprentissage des muscles, par exemple de la respiration. Ils ne savent pas que les muscles qui font bouger les doigts s'insèrent sur le coude et sont eux responsables de la tendinite. Donc il faut absolument qu'on fasse cette information. Il y a des choses qui se font et il faut absolument qu'on continue à former, informer. Il faut qu'on crée des coachs dans les orchestres. J'appelle ça coach, je ne trouve pas de mot qui soit vraiment adapté. C'est un terme anglophone, mais quelqu'un qui soit capable de les aider. Pas forcément de les guérir pas un kiné, parce que quand on pense à un kiné dans un orchestre, on pense toujours quelqu'un qui va venir faire quelques massages quand on aura mal au cou. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça sert pas à ça, un kiné dans un orchestre. Ça sert à aider à jouer de la musique, avec son corps, avec son plaisir, et avec toute son énergie portée à être capable de donner son art. Et il faut qu'on travaille sur l'ergonomie. Il faut aussi qu'on travaille sur ce qu'on appelle l'ergomotricité, c'est-à-dire l'adaptation de la personne à son travail. Et pour ça, il faut qu'il soit formé. Donc voilà à peu près le message que je voulais vous faire passer de cette expérience que moi j'ai sur le terrain, que je trouve fantastique, mais je me sens, je vais dire parfois, très seule. Alors j'ai commencé depuis 4 ans maintenant, j'ai lancé une formation pour les kinésithérapeutes. Donc je forme à peu près une dizaine de kinésithérapeutes par an. Eux aussi, il faut les informer sur l'intérêt de la spécificité du travail avec les musiciens. On ne soigne pas un musicien comme on soigne un sportif, ça c'est pas vrai. On ne soigne pas pareil, donc il faut les former. Donc je suis en train de faire un réseau de kinés pour musiciens, pour qu'il y ait des gens référents dans les villes de France et dans les villes d'ailleurs. Je suis venue 3 ans de suite former des kinés en Espagne, à Barcelone, avec un institut de physiologie de Barcelone qui me faisait venir. Avec la crise, les kinés n'arrivaient pas à avoir l'argent pour se former, donc je ne viens plus depuis 2-3 ans. Pourtant, il y a toujours quelque chose à faire. Donc il y a des kinés qui ont été formés en Espagne, il y a des kinés, j'ai eu une Canadienne qui est venue l'année dernière. Donc c'est vraiment mondial. Et donc il y a un réseau que j'ai mis sur mon site avec des noms de gens qui sont formés et qui sont dans les villes pour que les gens ne soient pas obligés de faire parfois 1000 km pour aller chercher un thérapeute capable de les soigner et de les aider, et pour aussi qu'il y ait ce message d'éducation pour faire de la prévention. Voilà mon message.